L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Et l'actualité diplomatique est dense dans la région. Et pour en parler, nous recevons ce matin l'ambassadrice de France dans le Pacifique. Bonjour Véronique Roger-Lacan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, Madame l'ambassadrice. Vous revenez d'Apia, vous avez participé au conseil exécutif du PROE, le programme régional océanien pour l'environnement. D'ailleurs, Wallis et Futuna vient d'en prendre la présidence tournante. Quel était l'ordre du jour de cette réunion ?
L'ordre du jour, c'est l'ordre du jour permanent du PREE, donc la préparation de la COP31, la contribution du Pacifique à la mise en œuvre du traité sur la protection de la biodiversité en haute mer, la protection des récifs coralliens dans le Pacifique, la finance verte, les grands fonds marins, la protection des grands fonds marins. Et là, on voit s'exprimer les positions différentes. Nous représentions le groupe francophone, c'est-à-dire Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française et Vanuatu, qui fait partie du groupe francophone. Et puis, il y a d'autres, les Polynésiens, les Mélanésiens et les Métropolitains. Et les positions que j'ai retenues, c'est surtout la discussion sur la COP31, puisqu'on sait que l'Australie avait candidaté pour héberger cette COP, que finalement c'est la Turquie qui l'a remportée, et que l'Australie s'est engagée déjà à présider les négociations à la COP31. Là, honnêtement, je ne suis pas sûre que les Turcs soient de nature à laisser quelqu'un d'autre que négocier, mais bon, c'est ainsi que l'Australie présente les choses.
Et puis, on sait qu'il y avait eu des tensions sur ces deux candidatures entre la Turquie et l'Australie. C'est un dossier qui remonte à plusieurs mois maintenant.
Oui, tout à fait. Je crois que c'était l'année dernière et qu'il y a eu de grosses négociations. Et bon, ils se sont entendus pour... Parce que la Turquie avait déjà retiré sa candidature pour la COP30, si je me souviens bien, au profit de Glasgow. Et donc, elle n'avait pas l'intention de retirer sa candidature une deuxième fois. Et donc, l'Australie s'engage très fortement, bien sûr, auprès des États du Pacifique. Un, pour représenter leurs intérêts. Deux, leurs intérêts étant essentiellement la présence de l'océan dans toutes les discussions sur le changement climatique, l'accès à la finance verte, etc. Et trois, en organisant une pré-COP à Nandi les 6 et 7 octobre, si je me souviens bien. Et là, Tuvalu a demandé, il y avait des candidats, dont Tuvalu, pour héberger cette pré-COP. Et Tuvalu s'est organisé avec l'Australie pour qu'il y ait une journée de visite par tous les participants à la pré-COP à Tuvalu. Donc l'effort logistique est considérable. Bon, voilà un peu le sujet, les discussions. Les deux sujets sujet à divergence, ce sont l'exploration des grands fonds marins, parce qu'il y a un certain nombre d'États du Pacifique qui veulent exploiter et qui se sont déjà engagés très fortement là-dedans, dont les îles Cook et Nauru. Et puis...
Tandis qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un moratoire sur la question.
Une interdiction totale, voilà, c'est ça. Ni exploration, ni exploitation, ce qui est un peu radical, mais... et puis, il y a la question du mix énergétique et de la place des énergies fossiles dans ce mix énergétique. Et là, on sait que l'Australie est un producteur et consommateur d'énergie fossile, dont le charbon, et que ça crée... Ça suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et peut-être de tensions dans le Pacifique.
Alors, on le sait, il y a une volonté de parler d'une voix commune sur ces questions, et notamment à la COP. Ça va être le cas aussi lors de la 11e conférence des îles du Pacifique sur la conservation de la nature et des aires protégées, qui va se dérouler à Nouméa début septembre, du 7 au 11. Ça va être aussi un temps fort de cette diplomatie environnementale. Il y a vraiment des enjeux ici.
Bon, alors les enjeux, je laisserai le gouvernement Nouvelle-Calédonie, qui est hôte de cette conférence, et le programme régional océanien pour l'environnement s'exprimer. Moi, je représenterai la France. Je suis mandatée par les ministres Barbu de la transition écologique et Chabot de la mer et de la pêche les représenter, le haut-commissaire qui représente l'État en Nouvelle-Calédonie ouvrira avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le PRE la manifestation, et moi je serai dans les négociations pour, comme c'est le cas normalement dans une réunion du PRE, pour négocier ce qu'il y a à négocier sur le fond. Ce qui est important peut-être à dire, c'est que c'est une conférence qui se tient tous les 5 ans. Le gouvernement précédent a candidaté, cette candidature a été retenue, et donc c'est le gouvernement actuel qui gère, c'est la vie normale du multilatéralisme régional.
On a tendance à dire que les problématiques sont communes pour les pays et territoires du Pacifique en termes d'environnement et notamment de montée des eaux. Est-ce qu'on peut trouver des positions communes en ayant des problématiques communes ? Normalement, ça devrait paraître évident. On a l'impression qu'il y a des difficultés malgré tout.
Il y a toujours, des enjeux de négociation, mais ça, encore une fois, je le laisse pour le PRO et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Alors parmi les autres rendez-vous importants, il y a aussi le 55e sommet du Forum des îles du Pacifique qui s'ouvre le 30 août à Palau, avec une polémique autour du rôle de la Chine dans cette organisation et notamment du positionnement vis-à-vis de Taïwan. Là aussi, vous êtes revenu sur cette question cette semaine.
Oui, je ne dirais pas que c'est une polémique, parce qu'en tout cas, moi en tant que diplomate, mon métier est de représenter les positions des uns et des autres, et qui sont par définition des positions légitime à partir du moment où elle ne viole pas les dispositions de la charte. Et donc on a dans le Pacifique 6 États qui reconnaissaient Taïwan jusqu'à 2019, qui étaient les îles Palaos, les îles Marshall, Tuvalu, Nauru, Kiribati et les îles Salomon. Or en 2019, il y a eu une sorte de coup de tonnerre puisque les îles Salomon ont signé avec la Chine des accords de sécurité qui n'ont d'ailleurs toujours pas été publiés, donc personne ne sait ce qu'il y a dans ces accords de sécurité, mais toujours est-il qu'à ce moment-là, ça a été vraiment une sorte de coup de tonnerre, et puis les uns et les autres dans la région se sont organisés différemment. Donc là, l'Australie par exemple a multiplié les accords bilatéraux. On a eu l'accord de Falepili avec Tuvalu fin 2023, si je me souviens bien. Puis l'accord Puk-Puk avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis là, très récemment, l'hiver ici, l'accord Nakamal avec le Vanuatu. Puis vous allez avec les Fidji. Et puis on sait que l'Australie propose ce type d'accord avec les petits États insulaires du Pacifique. Et par ailleurs, l'Australie renforce le dispositif régional de sécurité sous l'égide du Forum des îles du Pacifique. Donc ça, c'est un enjeu. Nous, de toute façon, avec les forces armées, les forces de sécurité, toutes les capacités de souveraineté que nous déployons pour assurer la sécurité des populations des territoires français du Pacifique, nous contribuons forcément à toutes les questions de sécurité dans le Pacifique, la lutte contre les trafics illicites, transnationaux. Vous avez vu qu'on a intercepté jusqu'à 11 tonnes de cocaïne, intercepté et détruit jusqu'à 11 tonnes de cocaïne au large de la Polynésie française. La lutte contre la pêche illicite, ça, on contribue énormément. Et puis la protection des populations contre les catastrophes climatiques, ce qu'on avait fait au Vanuatu pour le tremblement de terre est un exemple, mais il y a les glissements de terrain au Tonga, les tremblements de terre, etc.
Cette coopération régionale, elle permet de lutter contre cet expansionnisme chinois dans la région ?
En tout cas, je pense qu'il y a une volonté des États qui lance ça, de faire de sorte que la sécurité soit assurée par le Forum des îles du Pacifique, au sein du Forum des îles du Pacifique, avec ceux qui contribuent, qui sont vraiment membres du Forum des îles du Pacifique. C'est un petit peu ça, et ne pas laisser des acteurs externes s'immiscer dans ces affaires-là. Et donc, par ailleurs, les tirs de missiles chinois au large de la Polynésie française en octobre 2024, et puis là, au large des Kiribati et de Tuvalu en juillet 2026, suscite vraiment l'inquiétude. Et donc moi, vous voyez, je voyage beaucoup, et donc je recueille le point de vue des États insulaires. Ils sont quand même, ils expriment leur inquiétude parce que c'est le Forum des îles du Pacifique s'est créé comme une zone de paix et de sécurité, comme une zone exempte d'armes nucléaires. Et par ailleurs, ils sont très conscients de leur vulnérabilité parce que ce sont d'immenses espaces océaniques et de toutes petites terres. Si on prend l'exemple des îles Marshall, c'est 2 millions de zones de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. Et 180 km² de terre. Donc on voit la disproportion. Et évidemment, de petits terrains comme ça, et c'est une population de 10 000, donc on n'a pas la capacité de créer des forces navales, des flottes énormes pour aller surveiller ces zones. Donc forcément, on coopère d'abord ensemble. Ils réunissent leurs énergies et leurs capacités, et avec un certain nombre d'États tiers, mais ils doivent consolider leur unité. Donc plusieurs disent, nous seuls, on est très vulnérables et nos populations sont vulnérables, mais ensemble, on pèse. Donc, on veut maintenir l'unité. Et la question sur Taïwan, c'est qu'il y avait ces 6 États en 2019. En 2019, Salomon donc, a signé cet accord avec la Chine. Et puis, à ce moment-là, Nauru, Kiribati et les îles Salomon ont basculé du côté de la Chine. Il ne reste plus maintenant que Palaos, Marshall et Tuvalu, et qui, eux, sont très fermes sur leur lien avec Taïwan. Ils n'ont pas l'intention de le changer, même si la Chine, au titre de la Chine unique, de la politique en anglais, c'est One China Policy, qui est notre politique à nous, France d'ailleurs, incite très fortement les États à ne pas reconnaître Taïwan. Et les États insulaires disent, on est quand même, même si nous sommes vulnérables, même si nous avons besoin de coopération avec des États tiers, nous avons quand même la capacité d'élaborer notre propre politique étrangère. Et si certains veulent reconnaître Taïwan plutôt que la Chine, il faut les laisser. Il ne faut pas menacer l'unité du Forum des îles du Pacifique pour cela. Donc voilà, ça c'est un enjeu. Donc le deuxième enjeu, je vous l'ai décrit, c'est la création de l'architecture de sécurité du Pacifique. Donc nous, notre principe, c'est qu'on veut contribuer à cette architecture de sécurité, mais on veut aussi que la répartition des compétences des territoires, le fait que ce soit l'État qui assure toutes les compétences souveraines pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui sont eux membres à part entière du FIP, eh bien ça doit être pris en compte, parce que si on doit élaborer des politiques régionales de sécurité et contribuer à des politiques régionales de sécurité, alors c'est la voix de l'État qui doit être prise en compte. Donc c'est un mécanisme à élaborer entre nous et les territoires pour l'expression de la voix de l'État au FIP, mais c'est aussi un mécanisme à faire agréer par le FIP.
Alors, autre point, puisqu'il y en a beaucoup dans ce forum des îles du Pacifique, il y a aussi la question de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y avait une mission du FIP qui s'était déplacée sur le territoire. Il en sera de nouveau question lors de ce sommet ?
Oui, alors, il y a toujours, je dis que la Nouvelle-Calédonie est inscrite de manière permanente à l'agenda du FIP, donc il y a toujours un paragraphe Nouvelle-Calédonie. Ce paragraphe se cale de plus en plus sur la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la Nouvelle-Calédonie, qui, elle, reconnaît d'une part les revendications des uns et des autres, ça c'est légitime, et d'autre part la nécessité de trouver un consensus et d'avancer dans les négociations pour aboutir à une solution qui puisse convenir à l'ensemble de la population. Et par ailleurs, reconstruire. Donc nous, l'État, en tout cas, fait tout. Vous voyez, chaque jour, il y a des nouvelles sur la contribution de l'État à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie après les émeutes gravissimes de 2024. Et puis, l'État aussi contribue avec des propositions qui ont des fortunes diverses, mais contribue en permanence à proposer une solution sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Là, je rappelle, je l'ai dit plusieurs fois à ce micro, que cette solution, elle s'inscrit, un, dans le cadre constitutionnel français, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le droit français qui s'applique pour l'instant. Peut-être un jour, ce sera un autre droit, mais pour l'instant, c'est le droit français. Donc, toute solution doit évoluer en fonction du droit français, et le droit français reconnaît constitutionnellement le droit à l'autodétermination des populations des territoires d'outre-mer. Ça signifie que l'État a un devoir constitutionnel de permettre cette autodétermination. Les deux, ce ne sont pas des caveats, mais les deux points qui viennent avec ce principe, c'est que cette autodétermination, elle doit s'exprimer de manière démocratique, c'est-à-dire pas les armes, pas la violence, pas des insurrections, mais que les Calédoniens doivent utiliser les moyens démocratiques qui leur sont offerts par la France. On voit qu'il y a à l'Assemblée nationale un député indépendantiste, un député loyaliste, et au Sénat, un sénateur indépendantiste, un sénateur loyaliste. Ça montre bien que tout est possible pour exprimer les vues diverses, et que c'est par le biais des urnes française que doit s'exprimer l'évolution et le droit à l'autodétermination. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'autodétermination, elle est définie par l'ONU, par l'Assemblée générale des Nations unies, et qu'elle inclut quatre types de possibilités qui sont l'indépendance, l'intégration dans un État déjà souverain, c'est le cas actuel de la Nouvelle-Calédonie, l'État-association, ou toute autre solution négociée, c'était le cas de Bougival. Bougival, ça n'a pas fonctionné, donc on passe à autre chose. Donc voilà, le paragraphe du FIP reconnaîtra la nécessité de continuer à négocier, d'aller de l'avant, les efforts fournis par les uns et les autres, et l'engagement de l'État à la reconstruction du territoire.
Pas de prise de position à en attendre, hormis celle-ci.
Il n'y a pas de position possible à prendre, hormis celle de soutenir la volonté d'aboutir à une solution pérenne pour les uns et les autres.
Merci beaucoup, Véronique.
Merci à vous.